Chapitre 13. Kenzo Isozaki ne fut pas surpris lorsque les gardes suisses vinrent le chercher. Le colonel et les 8 soldats du corps helvétique en uniforme orange et bleu, armés de lances à énergie et de bâtons de la mort, arrivèrent au tor du Mercantilus sans s'être fait annoncer, demandèrent à voir Isozaki dans son propre bureau et lui transmirent un disque codé lui ordonnant de se mettre en tenue de cérémonie et de se présenter devant sa sainteté, le pape Urbain XVI, sur le champ. Le colonel ne quitta pas Isozaki des yeux, tandis que celui-ci entrait dans son appartement, prenait une douche rapide, et revêtait sa chemise blanche la plus chic, un gilet gris, une cravate rouge, un demi-costume croisé noir avec des boutons en or sur le côté, et une cape en velours noir. « Puis-je téléphoner à mes associés pour leur délivrer des instructions ?» au cas où je manquerais les réunions prévues plus tard dans la journée, demanda-t-il au colonel tandis qu'il sortait de l'ascenseur dans le grand hall public, où les gardes formaient une sorte de couloir bleu et or entre les postes de travail. « Non, » répondit l'officier des gardes suisses. Un statoréacteur de la flotte de la Pax stationnait là où le vaisseau personnel d'Isozaki s'amarrait habituellement. Les hommes d'équipage saluèrent le PDG du Mercantilus d'un bref signe de tête, lui conseillèrent de s'attacher sur sa couchette d'accélération, puis se propulsèrent vers l'intérieur du système, escortés par 2 vaisseaux torches visibles sur l'image holotactique. « Il me traite en prisonnier et non en honorable invité », pensa Isozaki. Son visage ne révélait rien, bien sûr, mais une montée d'un sentiment qui ressemblait à du soulagement suivit la vague de peur et d'appréhension. Il s'attendait à cela depuis sa rencontre illicite avec le conseiller Albedo. Et il n'avait presque pas dormi depuis ce rendez-vous douloureux et traumatisant. Isozaki savait que le conseiller n'avait aucune raison de dissimuler les tentatives faites par le Mercantilus pour contacter le technocentre, mais on croirait peut-être que cette initiative ne venait que de lui seul, du moins l'espérait-il. En silence, Isozaki remercia les dieux qui voulaient bien l'écouter que son ami et associé, Anna Pelikoniani, ait quitté le système de Passem pour se rendre dans le vecteur Renaissance où se tenait une grande foire commerciale. De sa couchette, entre le colonel et l'un des gardes suisses, Isozaki pouvait voir le holo tactique du poste de pilotage. La sphère de lumière et de couleurs changeantes, pleine de colonnes de chiffres, était hautement technique, mais Isozaki avait été pilote bien avant la naissance de ces types. Il comprit qu'il n'était pas en train d'accélérer vers Passem, mais vers une destination proche du point de fuite troyen, en plein milieu de l'essaim de bases astéroïdes de la flotte et de forteresses de défense du système. « Une prison orbitale du Saint-Office », pensa Isozaki. Pire que le château Saint-Ange où les machines à douleur virtuelles fonctionnaient, disait-on, à toute heure du jour et de la nuit. Personne ne pouvait vous entendre hurler dans l'un de ces cachots orbitaux. Isozaki était certain que l'ordre d'assister à une audience papale était de l'ironie pure, une manière de le faire sortir du Mercantilus sans protestation. Il aurait parié n'importe quoi que dans quelques jours, ou peut-être quelques heures, son costume et sa cape protocolaire seraient devenus des haillons ensanglantés, trempés de sueur. Il se trompait du tout au tout. L'escorteur décéléra au-dessus du plan de l'écliptique et Kenzo comprit quelle était leur destination. Le castel Gandolfo, la retraite estivale du pape. L'imageur disclé de sa couchette fonctionnait et il demanda une vue extérieure lorsque l'escorteur quitta les vaisseaux torches et se laissa tomber vers l'astéroïde massif en forme de pomme de terre. Petit monde de 40 clics de long sur 25 de large, le castel Gandolfo avait son ciel bleu, son atmosphère riche en oxygène assurée par des champs de confinement classe 20, enveloppés de leurs innombrables duplications de secours, ses collines et ses terrasses vertes de prairies et de cultures, ses montagnes sculptées couvertes de forêts, pleines de ruisseaux et de petits animaux. Isozaki vit le vieux village italien défiler en dessous de lui et comprit que cette paisible vision était trompeuse. Les bases de la Pax qui l'environnaient pouvaient détruire tout vaisseau ou toute flotte, et l'intérieur de l'astéroïde était truffé de garnisons comptant plus de 10 000 gardes suisses et soldats d'élite de la Pax. L'escorteur morfa des ailes et parcourut les derniers 10 kilomètres en se servant de ses pulsoréacteurs silencieux. Isozaki vit des gardes suisses en tenue de combat s'élever du sol pour accompagner le vaisseau durant les 5 derniers clics. La somptueuse lumière du soleil étincelait sur leurs armures de flux dynamique et sur leurs visières transparentes tandis qu'ils encerclaient l'escorteur et se dirigeaient vers la forteresse à vitesse aussi lente que possible. Isozaki vit plusieurs de ses soldats pointer leurs capteurs sur leur vaisseau, confirmant grâce aux radars de profondeur et aux infrarouges ce que l'affichage du manifeste codé leur avait révélé sur le nombre et l'identité des passagers et de l'équipage. Une porte s'ouvrit au flanc de l'une des tours de pierre du château, l'escorteur y pénétra tout pulso-réacteur éteint, et les gardes suisses le remorquèrent jusqu'à son berceau à la lueur bleue de leur paquetage à réaction. Le cycle du sas s'enclencha. Les 8 gardes suisses descendirent la rampe les premiers pour s'aligner sur 2 rangs, tandis que le colonel escortait Kenzo Isozaki. Celui-ci chercha des yeux une porte d'ascenseur ou un escalier, mais ce fut tout le niveau d'amarrage de la tour qui se mit à descendre. Les moteurs et les rouages ne faisaient aucun bruit. Seuls les murs de pierre, en défilant, révélèrent leur descente puis leur déplacement horizontal dans les boyaux souterrains du castel Gandolfo. Ils s'arrêtèrent. Une porte s'ouvrit dans le mur de froide pierre. Des lumières éclairaient un couloir d'acier poli où les objectifs des caméras montaient la garde à 10 mètres d'intervalle. D'un geste, le colonel pria Isozaki de prendre la tête de la colonne dans le tunnel sonore. Arrivé à son extrémité, une lumière les baigna tandis que d'autres sondes et senseurs les examinaient intérieurement et extérieurement. Un carillon sonna et l'iris d'une sortie s'ouvrit. Sur un salon d'attente très protocolaire, 3 personnes s'y trouvaient déjà lorsqu'Isozaki et son escorte entrèrent. Merde, pensa le cadre du Mercantilus. Anna Pelliconiani était là, dans ses plus beaux vêtements de fressoir, ainsi qu'Elvie Garonne et Kenneth Aimodino, homologues d'Isozaki au conseil de direction de la Ligue pancapitaliste des organismes du commerce transstellaire catholique indépendant. Merde, pensa de nouveau Kenzo, le visage totalement impassible, et il salua en silence ses associés. Ils vont nous tenir tous pour responsables de nos actes. Nous allons être excommuniés et exécutés. Par ici, dit le colonel des gardes suisses en ouvrant une porte sculptée avec recherche. L'autre salle était plus sombre. Isozaki huma une odeur de cierge, d'encens et de pierre suintante. Il comprit que les gardes suisses ne franchiraient pas cette porte. Ce qui l'attendait, lui et ses confrères, n'était que pour eux. « Merci, colonel, » dit Isozaki d'une voix aimable. À grands pas assurés, il entra le premier dans l'obscurité imprégnée d'encens. C'était une petite chapelle sombre, éclairée seulement par la lumière vacillante des bougies votives rouges, alignées dans un support en fer forgé, et les vitraux des 2 fenêtres cintrées à son chevet. 6 autres bougies brûlaient sur l'autel nu, mais les flammes des braseros, réparties contre le mur du fond, jetaient une lumière plus rougeoyante dans la pièce longue et étroite. Il n'y avait qu'un seul fauteuil haut, au dossier droit, capitonné de velours, à gauche de l'autel. Un motif qui ressemblait à un cruciforme était frappé sur l'étoffe du dossier, mais en le regardant mieux, on distinguait la triple croix du pape. L'autel et le fauteuil trônaient sur une petite estrade de pierre. Pas de chaise ni de banc dans la chapelle, mais l'on avait disposé des coussins de velours sur la pierre sombre, de chaque côté de l'allée que remontaient Isozaki, Cognani, Aimodino et Aaron. 4 d'entre eux, 2 de chaque côté, étaient libres. Les présidents du Mercantilus plongèrent les doigts dans l'eau bénite, firent le signe de croix, puis une génuflexion tournée vers l'autel, et allèrent s'agenouiller sur les coussins. Avant de baisser la tête pour une prière, Kenzo Isozaki jeta un coup d'œil circulaire sur la petite chapelle. Près de l'autel, le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Simon Augustino Lourdussami, était agenouillé, la tête inclinée, montagne de rouge et de noir dans la lumière rougeâtre, le menton et les bajoues dissimulés par le col romain, avec, derrière lui, la silhouette d'épouvantail de son assistant, Monsignor Luca Oddi. De l'autre côté de l'allée, le grand inquisiteur du Saint-Office, le cardinal John Domenico Mustafa, les yeux fermés, en prière. Près de lui, l'infâme agent secret et bourreau, le père Farrell. Du côté de l'Urdus Ami, trois officiers de la flotte de la Pax étaient à genoux. L'amiral Marucine, dont les cheveux argentés scintillaient dans la lumière rouge, son assistante, l'amiral Margaret Wu, et quelqu'un qui Sozaki mit un moment à identifier, l'amiral Aldi Cacti. Face au grand inquisiteur se tenait le cardinal Dunoyer, préfet et président de Cor Unum. C'était une septuagénaire en pleine forme, à la forte mâchoire et aux cheveux gris coupés courts. Ses yeux avaient la couleur du silex. Isozaki ne reconnut pas l'homme mûr en robe de Monsignor, en prière derrière elle. Les quatre dernières silhouettes agenouillées étaient les présidents du Mercantilus, Aaron et Aimodino du côté du grand inquisiteur, Isozaki et Pelliconiani de l'autre. Isozaki compta au total 13 personnes dans la chapelle. Un nombre qui n'était pas de bon augure, pensa-t-il. À ce moment, une porte cachée à droite de l'autel s'ouvrit sans bruit et le pape entra, accompagné de 4 personnes. Les 13 silhouettes agenouillées dans la chapelle se relevèrent et restèrent debout, la tête inclinée. Kenzo Isozaki eut le temps de reconnaître, parmi l'escorte papale, 2 assistants et un chef de la sécurité, des fonctionnaires anonymes, mais le 4e, en gris, était le conseiller Albedo. Seul celui-ci accompagna le pontife lorsque sa sainteté pénétra dans la pièce, fit baiser son anneau et toucha les têtes des hommes et des femmes de nouveau agenouillés. Pour finir, le pape Urbain XVI s'assit sur le trône au dossier droit et Albedo se tint debout à côté de lui. Les 13 dignitaires se relevèrent immédiatement. Isozaki baissa les yeux. Son visage était un modèle de calme, mais son cœur tapait contre ses côtes. Est-ce qu'Albedo va nous dénoncer? Est-ce que tous ces gens ont tenté de contacter secrètement le centre? Allons-nous être confrontés par sa sainteté, puis emmenés, privés de nos cruciformes et exécutés? C'était probable, pensa Isozaki. Frères et sœurs dans le Christ, commença le pape, nous sommes satisfaits de voir que vous avez accepté de vous joindre à nous ici en ce jour. Ce que nous allons vous dire, dans ce lieu retiré et silencieux, est demeuré secret pendant des siècles et doit le demeurer jusqu'à ce que l'Esprit Saint nous permette de le partager avec les autres. C'est ce que nous vous adjurons et ordonnons, sous peine d'être excommuniés et de priver vos âmes de la lumière du Christ. Les 13 hommes et femmes murmurèrent des prières et des acquiescements. Ces derniers temps, poursuivit sa sainteté, des événements à la fois étranges et terribles se sont produits. Nous en avons été témoins de loin, certains d'entre eux nous les avions prévus avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous avons prié pour que la volonté, la foi et la force d'âme de notre peuple, de notre Pax et de notre Église ne soient pas soumises à cette épreuve. Mais tout ce qui arrive dépend de la volonté de notre Seigneur. Il est impossible, même à son plus fidèle serviteur, de comprendre tous les événements et tous les prodiges. Il ne peut que s'en remettre à sa miséricorde lorsqu'il semble fort effrayant et difficile à comprendre. Les 13 dignitaires restèrent prudemment les yeux baissés. Plutôt que de relater ces événements de notre point de vue, dit doucement sa sainteté, nous demanderons à certains de ceux qui y ont participé d'en faire une relation complète. Puis nous nous efforcerons d'expliquer les relations qui existent entre des circonstances apparemment dissemblables. Amiral Marucine. L'amiral aux cheveux argentés bougea un peu pour faire face à la fois à l'assistance et à sa sainteté. Il s'éclaircit la gorge.
Des rapports en provenance d'une planète appelée Vitus Grey Balianus B
laisse supposer que nous avons failli capturer l'homme natif d'Hyperion, Roland Dimion, qui nous a échappé il y a 5 ans standard, avec notre sujet essentiel, la jeune fille appelée Aînée. Des éléments d'une unité spéciale de la garde noble, l'amiral fit un hochement de tête interrogateur en regardant le pape Urbain XVI, qui baissa les yeux en signe d'acquiescement. Des éléments de cette unité spéciale, poursuivit Marucine, prévinrent notre commandant sur Vitus Grey Balianus B de la présence possible de cet homme. Bien qu'il se soit enfui avant la fin des investigations menées dans cette zone, nous avons trouvé des preuves manifestes d'ADN et de microfragments assurant qu'il s'agissait bien du même Roland Dimion, brièvement incarcéré sur Mare Infinitus il y a plus de 4 ans. Le cardinal Lourdussamy s'éclaircit la gorge.
« Il pourrait se révéler utile que vous nous décriviez comment le suspect, Roland Dimion, s'est échappé de Vitus Grey Balianus B. »
Kenzo Isozaki ne scia pas, mais enregistra le fait que dans cette conférence, Lourdussamy parlait pour sa sainteté. « Merci, Votre Excellence, » répondit l'amiral. « Oui, il est manifeste que cet Endymion est à la fois arrivé et reparti de la planète par l'un des anciens Distrans. » Il ne se produisit aucun bruit audible dans la pièce, mais Isozaki perçut un bourdonnement psychique d'intérêt et de surprise. Depuis 4 ans, la rumeur courait que la flotte de la Pax poursuivait un hérétique qui avait réussi à activer les Distrans en sommeil.
Ce Distrans était-il fonctionnel lorsque vos hommes l'ont inspecté?
Questionna Lourdussamy. Non, Votre Excellence. Nous n'avons trouvé aucun signe d'activité sur aucun Distrans, ni celui en amont, qui avait dû fournir aux fugitifs l'accès à Vitus Grey Balianus B, ni l'autre en aval des habitations.
Mais vous êtes certain que cet Endymion n'est pas arrivé sur cette planète par un moyen plus conventionnel, et également certain qu'il ne s'y cache plus maintenant.
Oui, Votre Excellence. Ce monde de la Pax dispose d'un excellent contrôle de la circulation ainsi que des défenses orbitales. Tout aéronef approchant de Vitus Grey Balianus B aurait été détecté à plusieurs années-lumière de la planète. Et nous avons fouillé cette planète de fond en comble, administré du Divray à des dizaines de milliers d'habitants. L'homme appelé Endymion n'y est plus. Des témoins ont cependant déclaré qu'ils avaient vu un éclair de lumière jaillir du Distrans situé en aval, à l'instant précis où nos senseurs, dans cet hémisphère et au-dessus de lui, ont enregistré une importante saute d'énergie correspondant aux anciens enregistrements des champs de déplacement Distrans. Sa sainteté leva la tête et adressa un geste subtil au cardinal Lourdussamy.
« Et je crois que vous avez une autre bribe de nouvelles inquiétantes à nous communiquer, amiral Marucine, »
gronda Lourdussamy. L'expression de l'amiral devint encore plus sinistre.
« Oui, Votre Excellence,
Votre Sainteté, il s'agit de la première mutinerie de l'histoire de la flotte de la Pax. » Isozaki sentit de nouveau le murmure inaudible de stupéfaction. Il ne montra ni émotion ni réaction, mais du coin de l'œil, il vit qu'Anapeli Cognani le regardait. « Je voudrais que l'amiral Aldikakti nous résume l'affaire, » dit Marusine. Il recula d'un pas et croisa les bras. Aldikakti était l'une de ces lusiennes trapues qui semblaient presque trop androgynes pour qu'on leur accordât un genre. Elle était aussi dense et carrée qu'une brique en uniforme, pensa Isozaki. Aldikakti ne perdit pas de temps à s'éclaircir la gorge. Elle se lança dans un briefing décrivant le corps expéditionnaire Gédéon, chargé de détruire les forteresses extro de 7 systèmes des confins, la réussite de cette mission dans tous les systèmes, puis l'événement imprévu qui se produisit dans le dernier, dont le nom codé était Lucifer.
« Les résultats du corps expéditionnaire dépassaient largement les espérances et les simulations, »
aboya l'amiral Aldikakti.
Si bien qu'en terminant les opérations effectuées dans le système extro appelé Lucifer, j'envoyais un drone à propulsion Gédéon porter un message à Passem, à sa sainteté et à l'amiral Marusine, demandant la permission de nous ravitailler et de nous remettre en état dans le système de Tosseti puis de poursuivre la mission du corps expéditionnaire Gédéon, de détruire de nouveaux systèmes extro avant que la nouvelle de notre attaque se soit répandue dans les confins. Je reçus par drone Gédéon la permission de le faire et translatai donc la majeure partie de mon corps expéditionnaire à Tossetti pour qu'il se ravitaille et se réarme, et rejoigne les 5 archanges supplémentaires qui s'y étaient rendus directement lorsque notre corps expéditionnaire avait quitté l'espace de la Pax.
Vous avez translaté la majeure partie de votre corps expéditionnaire?
S'enquit le cardinal Lourdussamy dans un doux grognement.
Oui, votre excellence.
Il n'y avait ni excuse ni tremblement dans la voix lusienne inexpressive d'Aldicacti.
5 vaisseaux torches extro avaient échappé à notre détection et accéléré en propulsion Hawking vers un point de translation qui aurait dû, probablement, leur permettre de se rendre dans un autre système extro. Ils auraient transmis la nouvelle de notre présence et de notre force de destruction. Plutôt que de détourner tout le corps expéditionnaire Gédéon, qui approchait du point de translation vers le système de Tossetti, j'autorisais le Gabriel et le Raphaël à demeurer dans celui de Lucifer assez longtemps pour intercepter et détruire les vaisseaux torches extro.
Lourdussamy croisa ses mains rondelettes sur sa robe. Sa voix était un ronronnement profond.
Alors, vous avez translaté votre vaisseau amiral, l'Uriel et 4 autres archanges dans le système de Tossetti.
Oui, votre excellence.
En laissant le Gabriel et le Raphaël dans le système de Lucifer.
Oui, votre excellence.
Pourtant, vous saviez, amiral, que la flotte de la Pax et le Saint-Père doutaient assez de la stabilité du père capitaine de Soya pour que le Saint-Office assignât un agent secret à bord du Raphaël, afin qu'il observe son comportement et transmette ses observations.
« Un espion, » dit l'amiral Aldicacti. « Le commandant Liebler. Oui, votre excellence. Je savais que les agents du Saint-Office qui étaient à bord de mon vaisseau amiral recevaient sur faisceau étroit des messages codés du commandant Liebler qui se trouvait à bord du Raphaël.
« Et ces agents vous parlaient-ils du contenu de ces transmissions ?»
Non, votre excellence. On ne m'a pas fait connaître la nature des inquiétudes du Saint-Office quant à la loyauté ou la santé mentale du père capitaine de Soya.
Le cardinal Mustapha s'éclaircit la gorge et leva un doigt. Lourdussamy, qui, comme Isozaki et les autres l'avaient rapidement compris, était chargé de mener l'investigation, jeta un coup d'œil au pape. Sa sainteté désigna le grand inquisiteur d'un signe de tête. « Je crois nécessaire de faire remarquer à sa sainteté et aux autres dignitaires présents dans cette pièce que la surveillance du père capitaine de Soya avait été approuvée, ordonnée par l'office du Saint-Esprit, avec l'autorisation verbale du secrétaire d'État et du commandement de la flotte de la Pax, en particulier de l'amiral Marucine. » Il y eut un bref silence. Pour finir, Lourdussamy reprit.
« Et pouvez-vous nous dire, cardinal Mustapha, quelle était la cause de cette inquiétude commune ?»
Mustapha se passa la langue sur les lèvres.
« Oui, votre excellence. Des rapports de nos services de renseignement laissaient supposer qu'il y avait peut-être eu contamination lors des rares rencontres du père capitaine de Soya avec le sujet appelé aîné.
« Contamination. »
S'enquit Lourdussamy.
« Oui, votre excellence. Nous estimons que la jeune fille appelée aînée a le pouvoir d'affecter la constitution à la fois physique et psychologique des citoyens de la Pax avec lesquels elle entre en contact. Notre inquiétude, en ce cas, concernait la loyauté et l'obéissance absolue d'un des commandants des vaisseaux de la flotte. »
Et sur quoi s'appuyait cette hypothèse des services de renseignement ?
Demanda Lourdussamy. Le grand inquisiteur fit une pause avant de répondre.
Sur toute une variété de sources et de méthodes de nos services, votre excellence. L'Ourdus Ami, lui, répliqua aussitôt
« Parmi ceux-ci, il y a le fait que vous ayez arrêté et interrogé l'un de ceux qui ont participé à la poursuite avortée du sujet aidé par le père capitaine de Soya, n'est-ce pas, cardinal Mustapha ?»« Un certain caporal qui, je crois. »
Mustapha cligna des yeux. « C'est exact, votre excellence. » Le grand inquisiteur se tourna un peu afin de s'adresser aussi bien au reste de l'assistance qu'au pape et au secrétaire d'État. Une détention de ce type qui n'a rien d'exceptionnel s'impose dans une situation qui semble affecter la sécurité de l'Église et de la Pax.
« Bien sûr, votre excellence, »
murmura le cardinal Ourdus Ami.
« Amiral Aldikakti, vous pouvez poursuivre votre briefing. »
Quelques heures après que mes cinq archanges eurent effectué le saut jusqu'au système de Tosetti, et avant qu'aucun de nous ait terminé son cycle de résurrection de deux jours, un drone Gédéon s'est translaté dans l'espace de Tosetti. Il était expédié par la mère Capitaine Stone.
« Le commandant du Gabriel, »
précisa l'Ourdus Ami.
« Oui, votre excellence. » Le message codé du drone, un code que moi seul pouvais décrypter, disait que les vaisseaux torches extro avaient été détruits, mais que le Raphaël, faisant bande à part, accélérait vers un point de translation non autorisé et ne répondait pas à l'ordre de stopper que lui avait transmis la mère Capitaine Stone.
« Autrement dit, »
ronronna l'Ourdus Ami,
« l'un des vaisseaux de la flotte de sa sainteté était victime d'une mutinerie.
« Apparemment, votre excellence. » Bien qu'en ce cas la mutinerie ait été, semble-t-il, menée par le commandant du vaisseau.
Le père capitaine de Soya.
Oui, votre excellence.
Et a-t-on tenté de contacter l'agent du Saint-Office qui se trouvait à bord du Raphaël?
Oui, votre excellence. Le père capitaine de Soya a dit que Liebler était trop occupé par ses fonctions pour répondre. La mère capitaine Stone a trouvé cela invraisemblable.
Et quand elle contesta le changement de point de translation,
s'enquit l'Ourdus Ami.
Le père capitaine de Soya répondit que j'avais envoyé par faisceau étroit d'autres ordres au Raphaël avant le départ de notre corps expéditionnaire.
La mère capitaine a-t-elle accepté cette explication?
Non, votre excellence. Elle réduisit la distance entre les deux archanges et attaqua le Raphaël.
Quel fut le résultat de cet assaut, amiral?
Aldikakti hésita le temps d'un battement de cœur.
Votre excellence, votre sainteté, comme la mère capitaine Stone avait utilisé, dans son message par drone, un code lisible par une seule personne, un jour s'était déjà écoulé dans le système Tosetti, tant que prit ma résurrection d'urgence, avant que je lise et ordonne le retour immédiat au système de Lucifer.
« Combien de vaisseaux avez-vous emmenés, amiral ?»«
3, votre excellence. Mon propre vaisseau amiral, l'Uriel, dont j'avais renouvelé l'équipage, et 2 des archanges avec lesquels nous avions rendez-vous dans le système de Tosetti, le Mikal et l'Israël. J'ai pensé qu'accélérer la résurrection de tous les équipages du corps expéditionnaire Gédéon représentait un risque trop élevé. »«
Bien que vous ayez pris ce risque pour vous-même, amiral. »
fit remarquer l'Ourdus Ami. Aldikakti ne répondit rien.
Nous avons immédiatement sauté jusqu'au système de Lucifer, votre excellence. Là, nous nous sommes recyclés en résurrection automatisée de 12 heures. Beaucoup de ces résurrections ont mal tourné. Mais en combinant les membres des 3 vaisseaux convenablement régénérés, j'ai pu armer l'Uriel. J'ai laissé les 2 autres archanges en trajectoire de défense passive mais automatisée, pendant que je me mettais à la recherche du Gabriel et du Raphaël. Je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre, mais nous avons découvert un dernier drone balise de l'autre côté du soleil jaune de Lucifer.
Et le drone balise venait de...
l'incita l'Ourdus Ami.
La mère capitaine Stone. Il contenait l'histoire téléchargée de l'enregistreur de combat du Gabriel et montrait la bataille qui avait eu lieu moins de 2 jours auparavant. Stone avait tenté de détruire le Raphaël avec des armes à plasma et à fusion. Ses tentatives ayant échoué, le Gabriel attaqua alors le vaisseau du père capitaine de Soya avec le rayon de la mort.
Il y eut un silence dans la minuscule chapelle. Isozaki regarda la lumière rouge des bougies votives clignotantes qui teintait le visage peiné de sa sainteté, le pape Urbain XVI.
« L'issue de cet engagement ?» demanda l'Urdusami.
« Les deux équipages sont morts. Selon les équipements automatisés du Gabriel, le Raphaël a accompli sa translation programmée. La mère Capitaine Stone avait envoyé son équipage au poste de combat de la crèche de résurrection. Elle avait programmé les ordinateurs du Gabriel pour qu'en cas d'urgence, il la régénère ainsi que plusieurs des membres essentiels de son staff, selon un cycle de 8 heures. Seule elle et l'un de ses officiers ont survécu à la résurrection. La mère Capitaine Stone a codé la balise et accéléré vers l'ancien point de translation du Raphaël. Elle avait l'intention de retrouver et de détruire ce vaisseau, de préférence avant que De Soya et son équipage aient pu terminer leur cycle de résurrection. S'ils étaient dans leur crèche quand elle leur avait envoyé le rayon de la mort.
Est-ce que la mère Capitaine Stone savait à quel système ce point de translation aboutissait?
Non, Votre Excellence. Cela impliquait beaucoup trop de variables.
Et quelle fut votre réaction aux données de la balise, amiral?
J'attendis 12 heures que d'autres membres des équipages du Mikal et de l'Israël terminent leur cycle de résurrection, Votre Excellence. J'ai laissé une seconde balise pour les archanges qui, j'en étais sûr, suivraient dans quelques heures en provenance de Tosseti.
Vous n'avez pas trouvé nécessaire d'attendre ces vaisseaux?
Non, Votre Excellence. J'ai pensé qu'il était important de me translater dès que 3 de mes vaisseaux seraient aptes au combat.
Mais vous avez trouvé opportun d'attendre les équipages de ces 2 vaisseaux. Pourquoi ne pas partir immédiatement en chasse, rien qu'avec l'Uriel?
Aldikakti n'eut pas une seconde d'hésitation.
C'était une décision stratégique, Votre Excellence. J'estimais qu'il y avait beaucoup de chances pour que le père capitaine de Soya ait emmené le Raphaël dans un système extro, sans doute plus lourdement armé que ceux rencontrés jusqu'alors par le corps expéditionnaire Gédéon. Je pensais aussi que le vaisseau de la mère Capitaine Stone, le Gabriel, avait probablement été détruit soit par le Raphaël, soit par les vaisseaux extro, dans le système inconnu. Je sentais que 3 archanges étaient la force minimale que je devais entraîner dans cette situation imprévisible.
Et s'agissait-il d'un système extro?
Non, Votre Excellence. Ou du moins nous ne découvrîmes aucun signe des extros dans les 2 semaines de recherche qui suivirent cet incident.
Où le point de translation vous a-t-il conduit, amiral?
Dans la couche externe d'une géante rouge. Nos champs de confinement étaient activés, bien sûr, mais nous n'y échappâmes que de justesse.
Vos 3 vaisseaux, amiral?
Non, Votre Excellence. L'Uriel et l'Israël ont survécu à notre sortie de l'étoile et aux procédures de refroidissement du champ de confinement. Le Mikal fut perdu corps et biens.
Avez-vous retrouvé le Gabriel et le Raphaël?
Seulement le Gabriel, Votre Excellence. Il flottait en chute libre à quelques UA de la géante rouge. Aucun de ces systèmes n'était opérationnel. Il y avait une brèche dans le champ de confinement et l'intérieur du vaisseau avait fondu en une unique masse.
Vous avez retrouvé et régénéré la mère Capitaine Stone et les autres membres de l'équipage?
Malheureusement non, Votre Excellence. Il ne restait pas assez de matière organique discontinue pour procéder à la résurrection.
Cette scorification était-elle due à l'émergence dans la géante rouge ou bien à une attaque du Raphaël ou d'extro inconnu?
Cela reste à déterminer par nos experts en matériel, Votre Excellence, mais le rapport préliminaire suggère une surcharge due à la fois à des causes naturelles et à un combat. Les armes utilisées seraient compatibles avec l'armement du Raphaël.
Alors, vous voulez dire, amiral, que le Gabriel a mené un engagement automatisé près de cette géante rouge?
Dans l'étoile, Votre Excellence. Il semble que le Raphaël ait fait volte-face et pénétré dans l'étoile et attaqué le Gabriel au moment où il émergeait de l'espace Hawking.
Y a-t-il une chance pour que le Raphaël ait été également détruit dans ce second engagement, pour que le vaisseau ait brûlé à l'intérieur de l'étoile ?
Une chance, oui, Votre Excellence, mais nous n'opérons pas à partir de cette hypothèse. Nous préférons supposer que le père capitaine de Soya s'est translaté hors du système vers une destination inconnue dans les confins.
Lorsque l'Ourdusami hocha la tête, ses lourdes bajoues tremblotèrent un peu.
« Amiral Marussin,
gronda-t-il.
Si le Raphaël a vraiment survécu, pouvez-vous nous donner une estimation de la menace que ce fait représente ? »
L'amiral plus âgé s'avança.
« Votre Excellence, nous devons présumer que le père capitaine de Soya et les autres mutins sont hostiles à la Pax, et que ce vol d'un astronef de classe Archange était prémédité. Il faut aussi supposer le pire des scénarios, c'est-à-dire que ce vol de notre système d'armement le plus secret et le plus mortel a été exécuté en accord avec les extros. »
L'amiral respira à fond.
Vos Excellences, votre sainteté, avec la propulsion Gédéon, n'importe quel point de ce bras de la galaxie est à portée instantanée de tout autre. Le Raphaël peut se translater dans tout système de la Pax, même celui de Passem, sans l'avertissement que nous apportait le sillage de la propulsion Hawking des astronefs précédents et actuels, des extros. Le Raphaël pourrait s'en prendre au couloir de navigation de notre Mercantilus, attaquer des mondes et des colonies sans défense, et causer toutes sortes de ravages avant qu'un corps expéditionnaire de la Pax puisse réagir.
Le pape leva un doigt. « Amiral Marussin, devons-nous envisager que cette technologie si prisée de la propulsion Gédéon pourrait tomber entre les mains des extros, être copiée et fournir un moyen de propulsion à un grand nombre de vaisseaux ennemis ?» Le visage et le cou déjà rubicon de Marussin s'enflammèrent encore plus.
« Votre sainteté, c'est peu probable, votre sainteté. Très peu probable. La fabrication d'un archange Gédéon est tellement complexe, le coût si élevé, les éléments secrets si bien gardés.
Mais c'est possible, l'interrompit le pape.
Oui, votre sainteté.
Urbain XVI leva la main comme une lame coupant l'air.
Nous estimons avoir entendu tout ce que nous avions besoin d'apprendre de nos amis de la flotte de la Pax. Vous pouvez disposer, amiral Marussin, amiral Aldikakti, amiral Wu.
Les trois officiers firent une génuflexion, inclinèrent la tête, se relevèrent et sortirent à reculons. La porte se referma sur eux en chuchotant. Il n'y avait plus maintenant que 10 dignitaires présents, sans compter les assistants silencieux du pape et du conseiller Albedo. Le pape inclina la tête vers le secrétaire d'État. « Quelles dispositions avez-vous prises, Simon Augustino ?»«
L'amiral Marussin va recevoir une lettre de réprimande et sera transféré à l'état-major. L'amiral Wu le remplacera en tant que commandant en chef temporaire de la flotte de la Pax, jusqu'à ce que l'on trouve un remplaçant adéquat. L'amiral Aldikakti sera excommunié et exécuté par le peloton d'exécution. »
Le pape hocha tristement la tête. « Nous allons maintenant, avant de conclure cette affaire, écouter ce que le cardinal Mustapha, le cardinal du Noyer, le PDG du Mercantilus et le conseiller Albedo ont à nous dire. » Ainsi prit fin l'enquête officielle du Saint-Office concernant ce qui s'était passé sur le monde de la Pax appelé Mars, conclut le cardinal Mustapha. Il jeta un coup d'œil au cardinal Ourdusami. C'est alors que le capitaine Walmack suggéra qu'il était impératif que je revienne avec mon escorte à bord de l'archange Jibril, toujours en orbite autour de cette planète.
Poursuivez, je vous prie. « Excellence, » murmura l'Ourdusami. Pouvez-vous nous décrire la nature de l'imprévu qui poussa le capitaine Walmack à exiger votre retour d'une manière si impérative ?
Oui, répondit Mustapha en se frottant la lèvre supérieure. Il venait de découvrir le transporteur interstellaire qui avait embarqué une cargaison à la base non enregistrée, voisine de la cité martienne d'Arafat Kafiyeh. Il flottait, sans aucune source d'énergie, dans la ceinture d'astéroïdes du système de l'ancienne Terre.
Pouvez-vous nous dire le nom de ce vaisseau ?
Le VMSS Saigon Maru. Les lèvres de Kenzo Isozaki se tordirent en dépit de son contrôle de fer. Il se souvenait de ce cargo. Son fils aîné y avait embarqué durant les premières années de son apprentissage. Le Saigon Maru était un ancien transporteur de minerais et de fret, un cargo traîneau à ions de 3 millions de tonnes, se rappela-t-il.
H. Isozaki,
dit sèchement l'ourdu Sami. Oui, votre excellence, répondit le PDG d'une voix douce et dépourvue de toute émotion.
Le sigle du vaisseau suggère qu'il fait partie de la flotte du Mercantilus. Est-ce exact, H. Isozaki?
Oui, votre excellence. Mais le Saigon Maru a été vendu à la casse avec une 60aine d'autres cargos obsolètes, il y a environ 8 années standard, si j'ai bonne mémoire. Vos excellences, intervint Anna Pelikoniani. Votre sainteté, puis-je me permettre? Elle avait chuchoté dans son persoc mince comme une hostie et tripotait maintenant son audio.
Oui, H. Pelikoniani,
répondit le cardinal Lourdes Sami. Nos enregistrements révèlent que le Saigon Maru a été vendu à des ferrailleurs indépendants il y a 8 ans, 3 mois et 2 jours standards. Des transmissions ultérieures ont confirmé que les vaisseaux avaient été démantelés et recyclés dans les fonderies automatisées orbitales d'Armagast.
Merci, H. Pelikoniani,
dit Lourdes Sami.
Cardinal Mustapha, vous pouvez continuer.
Le grand inquisiteur hocha la tête et poursuivit son exposé, ne rapportant que les détails les plus importants. Et tout en parlant, il pensait aux images qu'il ne décrivait pas. Le Jibril et les vaisseaux torches qui l'accompagnaient ralentirent pour se mettre en chute libre silencieuse et synchrone, à la même vitesse que le sombre cargo. Le cardinal Mustapha s'était toujours imaginé les ceintures d'astéroïdes comme des groupements très denses de petites lunes, mais en dépit des nombreuses images affichées sur le relevé tactique, il n'y avait pas de rocher en vue. Juste le cargo d'un noir mat, aussi laid et fonctionnel qu'une masse rouillée de tuyaux et de cylindres, d'un demi-clic de long. Flottant à la même vitesse, sur la même trajectoire, à seulement 3 clics du soleil jaune natal de l'humanité brûlant derrière leur poupe, le Jibril et le Saigon Maru semblaient immobiles, tandis que seules les étoiles tournoyaient lentement autour d'eux. Mustapha se remémora et regretta sa décision d'inspecter le vaisseau avec les soldats qui allaient se rendre à bord. Il ressentit comme un affront l'obligation de revêtir l'armure de combat des gardes suisses, une combinaison peau en monomoldé, ensuite un treillis neural d'IA, puis la combinaison spatiale elle-même, plus volumineuse que les combinaisons peau civiles à cause de son fourreau polymérisé d'armure d'impact, et pour finir les ceintures réseau du matériel et le paquetage à réaction morphable. Le Jibril avait sondé la coque au radar profond 12aines de fois, et l'on était certain que rien ne bougeait ou ne respirait à bord, mais l'archange recula à une distance d'attaque de 30 clics dès que le grand inquisiteur, le commandant de la sécurité Browning, le sergent des marines Neil Kastner, le major Piet, ex-commandant de l'armée de terre, et 10 gardes suisses marines eurent sauté dans le vide. Mustapha se souvint combien son pouls battait tandis qu'il se rapprochait du cargo mort et que 2 membres du commando le transportaient dans le vide comme un paquet. Il se remémora la lumière du soleil qui se réfléchissait sur les visières dorées tandis que les soldats communiquaient par salve sur faisceau étroit et signaux à bras en prenant position de chaque côté du sas ouvert. 2 d'entre eux entrèrent les premiers, les armes d'assaut levées, leur paquetage à réaction vibrant en silence. Puis le commandant Browning et le sergent Kastner se hâtèrent de les suivre. 1 minute plus tard, une salve codée fut lancée sur le canal tactique et les porteurs de Mustapha le guidèrent dans le trou noir du sas. Des cadavres flottaient dans les rayons des torches laser. Images d'armoires à viande, carcasses congelées, côtes striées de rouge, cavités abdominales éviscérées, mâchoires ouvertes sur des cris éternellement silencieux, ruisseaux de sang congelés au sortir de bouches ouvertes et d'yeux exorbités, viscères dérivant en trajectoire de chute sous les rayons impitoyables de la lumière.
« L'équipage !»
transmit le lieutenant Browning sur faisceau étroit.
« Le Gritch ?»
s'enquit le cardinal Mustapha.
Il récitait mentalement le rosaire sur un ton monotone et rapide. Non pour obtenir un réconfort spirituel, mais pour éloigner son esprit des images flottant dans la lumière infernale. On lui avait dit qu'il ne devait pas vomir dans son casque. Des filtres et des tampons nettoieraient le gâchis avant qu'il ne l'étouffe, mais le processus n'était pas à toute épreuve.
« Probablement le Gritch !»
répondit le major Piet en introduisant son gantelet dans la cavité pulmonaire fracassée d'un des cadavres qui dérivait.
« Vous voyez que le cruciforme a été arraché. Tout à fait comme à Arafat Kafieh. Commandant !»
C'était la voix sur faisceau étroit de l'un des soldats entrés avant eux.
« Sergent ! Ici, dans la première soute !»
Browning et Piet pénétrèrent avant le grand inquisiteur dans le long cylindre. Les faisceaux des torches laser se perdaient dans cet immense espace. Ces cadavres-là n'avaient été ni tailladés ni mis en pièces. Ils étaient soigneusement empilés sur des dalles de carbone et maintenus en place par des bandes de tulle de nylon. Les dalles, alignées le long des cloisons, ne laissaient qu'un couloir en gravité zéro au centre. Mustapha et ses guides le parcoururent d'un bout à l'autre en flottant, les lasers des torches transperçant l'obscurité à gauche, à droite, en bas et en haut. De la chair gelée, de la chair blafarde, des codes-barres imprimés sur les plantes des pieds, des poils pubiens, des yeux fermés, des mains pâles posées près des hanches sur le carbone noir, des pénis flasques, des seins gelés en impesanteur, des cheveux collés à des crânes pâles ou flottant en imbus congelé. Des enfants à la peau froide et douce, au ventre rond, aux paupières translucides. Des bébés aux pieds marqués de codes-barres. Il y avait des dizaines de milliers de corps dans les quatre longues cales du cargo. Tous humains. Tous nus. Tous sans vie.
« Avez-vous achevé votre inspection du Saïgomaru, grand inquisiteur ?»
Le cardinal Lourdussami l'incitait à continuer. Mustapha s'aperçut que, possédé par le démon de ce terrible souvenir, il gardait le silence depuis un long moment.
« Nous l'avons achevé, Votre Excellence, »
répondit-il d'une voix voilée.
« Et vos conclusions ?»
« Il y avait 67 827 êtres humains à bord du cargo Saïgomaru. 51 d'entre eux étaient les membres de l'équipage. » Ces cadavres-là furent identifiés. Tous étaient tailladés et déchirés de la même manière que les victimes d'Arafat Kafieh.
Il n'y avait pas de survivants. Aucun n'a pu être régénéré.
Aucun.
À votre avis, cardinal Mustapha, le responsable de la mort des membres de l'équipage du Saïgomaru, était-ce le démon appelé Gritch?
À mon avis, oui. « Votre Excellence. »
Et toujours à votre avis, cardinal Mustapha, le Gritch était-il responsable de la mort des 67 776 autres corps trouvés à bord du Saïgomaru?
Mustapha n'hésita que durant une seconde.
« À mon avis, Votre Excellence, »
il tourna la tête et l'inclina vers l'homme assis dans le fauteuil.
« Votre sainteté ?»
La cause de la mort des 67 000 et quelques hommes, femmes et enfants trouvés à bord du Saïgomaru ne correspondait en rien aux blessures découvertes sur les victimes de Mars ou aux précédentes attaques du Gritch. Le cardinal Lourdussami fit un pas en avant dans un bruissement d'étoffe.
Et selon les experts médico-légaux de votre saint office, quelle était la cause de la mort des êtres humains découverts à bord de ce cargo?
Le cardinal Mustapha répondit les yeux baissés.
« Votre Excellence,
ni les spécialistes médico-légaux du Saint-Office, ni ceux de la flotte de la Pax, n'ont pu spécifier la cause de la mort de ces gens. En fait, Mustapha se tut.
En fait, poursuivit pour lui l'ourdu Sami, les cadavres trouvés à bord du Saigon Maru, je ne parle pas de l'équipage, ne montraient aucune cause évidente de mort, ni même des signes de mort. N'est-ce pas ?
C'est exact, Votre Excellence. Les yeux de Mustapha parcoururent les visages des autres dignitaires présents dans la chapelle. Ils n'étaient pas vivants, mais ils ne montraient ni signe de décomposition, ni lividité post-mortem, ni détérioration du cerveau. Aucun des signes habituels de mort physique.
« Pourtant, ils n'étaient pas vivants !»
insista l'ourdu Sami. Le cardinal Mustapha se frotta la joue. « Nous n'avons pas pu les ranimer, Votre Excellence. Nous avons été incapables de détecter des signes d'activité cérébrale ou cellulaire. Leur fonction organique était arrêtée.
« Et qu'avez-vous fait du transporteur, le Saigon Maru ?»
Le capitaine Walmack y a mis un équipage de premier ordre, choisi parmi les membres de celui du Jibril. Nous sommes immédiatement revenus à Passem afin de rendre compte de cette affaire. Le Saigon Maru a voyagé par propulsion Hawking traditionnelle, escorté par 4 vaisseaux de torches à propulsion Hawking, et il devrait arriver dans le système de la Pax le plus proche d'une base de la flotte, le système de Barnard, je crois, dans 3 semaines standard. L'ourdu Sami hocha lentement la tête.
Merci, grand inquisiteur.
Le secrétaire d'État s'avança vers le fauteuil du pape, fit une génuflexion lorsqu'il fut devant l'autel et se signa en traversant l'allée.
« Votre sainteté, j'aimerais que nous entendions maintenant son excellence, le cardinal Dunoyer. »
Le pape Urbain leva une main comme s'il bénissait. « Entendre le cardinal Dunoyer nous ferait plaisir. » L'esprit de Kenzo Isozaki vacillait. Pourquoi leur faisait-on raconter tout cela ? À quoi pouvait-il leur servir de faire connaître ces rapports au cadre du Mercantilus de la Pax? Le sang d'Isozaki s'était glacé en entendant la sentence de mort de l'amiral Aldikakti. Cela devait-il être leur destin à tous? Non, comprit-il. Aldikakti avait reçu une condamnation d'excommunication et d'exécution pour simple incompétence. Si Mustapha, Pelikoniani, lui-même et les autres étaient accusés d'une sorte de trahison, une rapide et simple exécution serait la chose la plus éloignée de leur destin. Les machines à douleur du château Saint-Ange bourdonnaient et grinçaient depuis des siècles. Le cardinal Dunoyer avait visiblement choisi d'être régénéré en vieille femme. Comme la plupart des personnes âgées, elle paraissait en parfaite santé, elle avait toutes ses dents, un minimum de rides, des yeux marron clair et brillants, mais elle préférait être vue avec ses cheveux blancs coupés presque ras et une peau tendue sur des pommettes saillantes. Elle commença son préliminaire.
« Votre sainteté, Excellence, je témoigne ici aujourd'hui en tant que préfet et président de Cor Unum et porte-parole de facto de l'Opus Dei. Pour des raisons qui vont devenir évidentes, les administrateurs de ce dernier organisme ne pouvaient pas et ne devaient pas être présents ici aujourd'hui.
« Poursuivez, Votre Excellence, » dit l'ourdu Sami.
Le gros transporteur Saigon Maru, échappant au recyclage de la ferraille, a été racheté par Cor Unum pour l'Opus Dei et livré à cet organisme il y a 7 ans.
« Pour quelle raison, Votre Excellence ?»
Sans qui l'ourdu Sami. Le regard du cardinal Dunoyer se posa sur tous les visages, l'un après l'autre, sur celui de sa sainteté en dernier et se baissa alors par respect.
Pour transporter les corps sans vie de millions de personnes, semblables à ceux qui ont été découverts à l'occasion de ce voyage interrompu.
Les 4 PDG du Mercantilus émirent un bruit qui dépassait celui d'une simple aspiration d'air.
Des corps sans vie,
répéta le cardinal Lourdussami, mais avec le ton calme d'un procureur général qui sait, à l'avance, quelles seront les réponses à ces questions.
Des corps sans vie venus d'où, cardinal Dunoyer?
D'un des mondes désignés par l'Opus Dei, votre Excellence. Au cours des 5 dernières années, Hébron comme Riyad, Fuji, Nevermore, Sol Draconi Septem, Parvati, Tsingtao Sichuangpana, la Nouvelle Mecque, Mao IV, Ixion, les territoires de l'Anneau de Lambert, Amertume de Sibiatus, le littoral nord de Mare Infinitus, la Lune terraformée de Renaissance Mineure, Nouvelle Harmonie, Nouvelle Terre et Mars.
Rien que des mondes qui ne font pas partie de la Pax, pensa Kenzo Isozaki. Ou des mondes sur lesquels la Pax n'a fait que prendre pied.
Et combien de corps ont transporté ces cargos de l'Opus Dei et de Corunum, cardinal Dunoyer?
Demanda Lourdussami d'un grognement profond.
À peu près 7 milliards, votre Excellence.
Kenzo Isozaki dut se concentrer pour ne pas vaciller.
7 milliards de corps.
Un gros cargo comme le Saigon Maru pouvait emporter 100 000 cadavres si on les empilait comme des bûches. Il lui faudrait 70 000 voyages pour en transporter 7 milliards d'un système solaire à un autre.
Absurde.
À moins qu'il n'y ait des douzaines de gros transporteurs, dont un grand nombre du type Nova le plus récent, effectuant des centaines ou des milliers de trajets aller et retour. Chacune des planètes citées par Dunoyer avait été fermée au Mercantilus depuis environ 4 ans, mise en quarantaine à cause de disputes commerciales ou diplomatiques avec la Pax.
Ce sont tous des mondes non chrétiens.
Isozaki s'aperçut qu'il avait pensé tout haut. C'était le plus grand impère qu'il ait jamais commis en matière de discipline. Tous les hommes et les femmes tournèrent la tête vers lui.
Des mondes non chrétiens,
répéta Isozaki, omettant même les titres honorifiques.
Ou des mondes chrétiens avec de fortes populations non chrétiennes, comme Mars ou Fuji ou Nevermore. Le Corunum et l'Opus Dei ont exterminé des non-chrétiens. Mais pourquoi transporter leur corps? Pourquoi ne pas les laisser pourrir sur leur planète natale, puis faire venir des colons de la Pax?
Sa sainteté leva la main. Isozaki se tut. Le pape adressa un hochement de tête au cardinal Lourdussami.
Cardinal Dunoyer,
reprit le secrétaire d'État comme si Isozaki n'avait pas parlé.
Quelle est la destination de ces cargos?
Je l'ignore, votre Excellence.
Et qui a autorisé ce projet?
La Commission Justice et Paix, votre Excellence.
Isozaki tourna brusquement la tête. Le cardinal venait de déposer la responsabilité de cette atrocité, de ce génocide sans précédent, directement aux pieds d'un homme. La Commission Justice et Paix avait un préfet et un seul. Le pape Urbain XVI, l'ex-pape Jules XIV. Isozaki regarda les mules du prêcheur et envisagea de se jeter sur ce monstre, d'essayer de refermer ses doigts autour du cou décharné du pape. Il savait que les gardes silencieux qui se tenaient dans le coin l'abattraient à mi-chemin. Il avait tout de même envie d'essayer.
Et savez-vous, cardinal Dunoyer,
poursuivit Lourdussami comme si rien d'horrible n'avait été révélé, comme si rien d'innommable n'avait été décrit.
Comment ces gens, ces non-chrétiens, ont été mis en état de non-vie?
Mis en état de non-vie, pensa Isozaki, qui avait toujours détesté les euphémismes. Massacrés. Espèce de fils de pute.
Non. Mon travail, en tant que préfet de Corunum, consiste simplement à fournir à l'Opus Dei les moyens de transport nécessaires. Les destinations des vaisseaux et ce qui est arrivé avant que mes cargos se révèlent nécessaires ne m'ont jamais concerné.
Isozaki s'agenouilla sur les dalles, non pour prier,
mais parce qu'il ne pouvait plus tenir debout. Pendant combien de siècles, Dieu de mes ancêtres, les complices des génocides ont-ils répondu de cette manière? Depuis Horace Glennon Haidt, depuis le légendaire Hitler, depuis toujours.
Merci, cardinal Dunoyer,
dit Lourdes Samy. La femme âgée recula. Chose incroyable, ce fut le pape qui se leva et s'avança, ses mules blanches ne faisant qu'un doux bruit sur la pierre. Sa sainteté marcha entre ceux qui le regardaient fixement, passa devant le cardinal Mustapha et le père Farrell, devant le cardinal Lourdes Samy et Monseigneur Oddi, devant le cardinal Dunoyer et le Monseigneur anonyme debout derrière elle, devant les coussins vides où s'étaient agenouillés les officiers de la flotte de la Pax, devant les PDG Aaron, Aimodino et Anna Pelliconiani, jusqu'à l'endroit où Isozaki était agenouillé, sur le point de vomir, des points noirs dansant devant ses yeux. Sa sainteté posa une main sur la tête de l'homme qui, à ce moment, envisageait de le tuer. « Notre fils, lève-toi, » dit le meurtrier de milliards d'êtres humains. « Debout et écoute. Nous te l'ordonnons. » Isozaki se leva, les jambes écartées, titubant. Ses bras et ses mains le picotaient comme si quelqu'un l'avait bombardé avec un étourdisseur neural, mais il savait que c'était son corps qui le trahissait. Il n'aurait pas pu refermer les doigts autour d'une gorge. Il avait déjà assez de mal à tenir debout. Le pape Urbain XVI tendit la main, la posa sur l'épaule du PDG et l'empêcha de tomber. « Écoute, frère dans le Christ, écoute. » Sa sainteté tourna la tête et sa mitre s'inclina. Le conseiller Albedo s'avança jusqu'au bord de l'estrade basse et se mit à parler.
Votre sainteté, vos excellences, honorable cadre, dit l'homme en gris. La voix d'Albedo était aussi lisse que ses cheveux, aussi paisible que son regard gris, aussi moelleuse que la soie de sa cape grise. Kenzo Isozaki trembla en l'entendant. Il se souvint de l'atroce douleur et de l'humiliation subie lorsqu'Albedo avait transformé son cruciforme en atroce supplice.
« Dites-nous qui vous êtes, je vous prie !»
gronda Lourdes Samy de sa voix la plus aimable. Le conseiller personnel de sa sainteté, le pape Urbain XVI, voilà ce que Kenzo s'attendait à entendre. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, on avait perçu la présence grise d'Albedo et des rumeurs couraient sur elle. On ne voyait en lui que le conseiller personnel de sa sainteté.
« Je suis une construction artificielle, un cybride créé par des éléments du technocentre des IA, » dit le conseiller Albedo. « Je suis ici en tant que représentant de ces éléments du centre. »
Tout le monde, sauf sa sainteté et le cardinal Lourdes Samy, recula pour s'en éloigner. Personne ne parla, personne ne cria. Mais l'odeur animale de la peur et de la répulsion n'aurait pas été plus forte dans la petite chapelle si le Gritch s'était soudain matérialisé parmi eux. Les doigts du pape serraient toujours l'épaule de Kenzo Isozaki. Il se demanda si sa sainteté pouvait sentir le martèlement de son pouls au travers de la chair et de l'os.
Les êtres humains enlevés sur les mondes énumérés par le cardinal Dunoyer ont été mis en état de non-vie, par la technologie du centre, par un vaisseau spatial robot du centre, et emmagasiné grâce aux techniques du centre, poursuivit Albedo. Comme l'a déclaré le cardinal Dunoyer, approximativement 7 milliards de non-chrétiens ont subi ce traitement pendant ces 7 dernières années. 40 ou 50 milliards d'autres le subiront dans les 10 ans à venir. Il est temps d'expliquer la raison de ce projet et de requérir votre aide directe pour sa réalisation.
Kenzo Isozaki pensait,
Il est possible d'équiper le squelette humain d'un explosif puissant à base de protéines, si subtil que même les renifleurs de la garde suisse ne l'auraient pas détecté. J'aurais dû faire cela avant de venir. Le pape relâcha son épaule et retourna doucement vers l'estrade. En passant, il toucha la manche du conseiller Albedo. Sa sainteté s'assit dans son fauteuil au dossier droit. Albedo inclina légèrement la tête et se tourna vers les dignitaires attentifs. Même les gardes de la sécurité papale avaient reculé jusqu'au mur. On vous a raconté, surtout dans les mythes et légendes, mais aussi dans l'histoire de l'Église, commença Albedo, que le technocentre avait été détruit lors de la chute des Distrans. Ce n'est pas vrai. On vous a dit, surtout dans les cantos interdits d'Hyperion, que le centre comptait trois éléments. Les stables, qui souhaitaient préserver le statu quo entre l'humanité et le centre. Les volages, qui voyaient dans l'humanité une menace et complotèrent pour la détruire. Essentiellement par la destruction de la Terre via la grande erreur de 08. Et les ultimistes qui ne pensaient qu'à créer une intelligence ultime à base d'IA, une sorte de dieu de silicium qui pourrait prédire le futur et régner sur l'univers, ou du moins sur cette galaxie. Toutes ces vérités sont des mensonges. Isozaki s'aperçut qu'Anna Pelikoniani s'était emparée de son poignet et que ses doigts froids l'enserraient très fort. Le technocentre n'a jamais compté trois éléments en guerre les uns avec les autres, dit Albedo en marchant de long en large devant l'autel et l'estrade. Depuis qu'il a acquis la conscience il y a un millier d'années, le centre s'est constitué de milliers d'éléments et de factions divers qui entrent souvent en conflit, plus souvent encore coopère, mais lutte toujours pour accomplir une synthèse harmonieuse vers laquelle l'intelligence autonome et la vie artificielle devraient évoluer. Cette entente ne s'est jamais cristallisée. À peu près au moment où le technocentre évoluait pour acquérir une véritable autonomie, alors que la plupart des êtres humains vivaient à la surface d'une unique planète, l'ancienne Terre, ou en orbite autour d'elle, l'humanité a acquis la capacité de modifier son programme génétique, c'est-à-dire d'orienter sa propre évolution. Cette découverte capitale fut partiellement due aux recherches en manipulation génétique menées au tout début du XXIe siècle après Jésus-Christ, mais fut rendue possible plus directement par les raffinements de la nanotechnologie avancée. D'abord sous la direction et le contrôle des premières IA du centre, travaillant avec des chercheurs humains, des formes de vie nanotech, des êtres autonomes, certains intelligents, bien plus petits qu'une cellule, d'autres de dimension moléculaire, développèrent bientôt leur propre raison d'être et leur raison d'état. Des nanomachines, adoptant souvent la forme de virus, envahir et remodelèrent l'humanité, telle une terrible peste. Heureusement, pour la race humaine et pour celle des intelligences autonomes, maintenant connues sous le nom de centre, le vecteur primaire de ce fléau était à bord des premiers vaisseaux d'ensemencement et autres astronefs coloniaux plus lents que la lumière, lancés juste avant l'égire humaine. À cette époque, les premiers éléments de ce qui deviendrait l'hégémonie humaine et les éléments Distrans du technocentre prirent conscience que les communautés nanotechniques en évolution, développées sur ces vaisseaux d'ensemencement, visaient en réalité la destruction de l'humanité et la création d'une nouvelle race d'adaptés biologiques contrôlée par la nanotechnique dans un millier de systèmes stellaires éloignés. L'hégémonie et le centre réagirent en interdisant la recherche nanotech avancée et en déclarant la guerre aux colonies des vaisseaux d'ensemencement nanotech, groupement maintenant connu sous le nom d'Extro.
mais d'autres événements éclipsèrent cette lutte. Des éléments du centre, alors en voie de développement, partisans d'une alliance avec les univers nanotech, factions qui n'étaient pas des moindres, découvrirent quelque chose qui terrifia le centre tout entier. Comme vous le savez, nos premiers travaux en physique de la propulsion Hawking et de la communication plus rapide que la lumière amenèrent à la découverte d'un milieu de l'espace de Planck appelé par certains « espace qui lit ». L'évolution de la connaissance de cette substructure sous-jacente qui unifie l'univers conduisit à notre création du moyen de communication appelé « canal large », ainsi qu'à la propulsion Hawking améliorée, aux 10 trans qui unirent le RETS hégémonique, aux infosphères planétaires évoluant en mégasphères de données gérées par le centre, à la propulsion Gédéon instantanée d'aujourd'hui, et même à des expériences de bulles anti-entropiques de cet univers qui, nous le croyons, deviendront les tombeaux du temps sur Hyperion. Mais ces cadeaux faits à l'humanité n'étaient pas gratuits. Il est vrai que certaines factions d'ultimistes, au sein du centre, utilisaient les distances pour se brancher sur les cerveaux humains afin de créer un réseau neural qui servait leurs propres besoins. Ce processus ne comportait aucun danger. Les réseaux neuraux étaient créés dans le non-temps et non-espace du transit distance de l'espace de Planck, et les humains n'auraient jamais appris l'existence de ces expériences si d'autres éléments du centre n'avaient pas révélé ce fait à la première persona hybride de John Keats il y a 4 siècles. Mais je suis d'accord avec les humains et les éléments du centre qui jugent cet acte immoral et le considèrent comme une violation de l'intimité. Toutefois, ces premières expériences de réseau neural dévoilèrent un fait stupéfiant. Il y avait d'autres centres dans l'univers, peut-être même dans notre galaxie. Cette découverte provoqua une guerre civile qui fait toujours rage au sein de notre technocentre. Certains éléments, pas seulement les volages, ont décidé qu'il était temps de mettre fin à l'expérience biologique que constitue la race humaine. Des plans furent élaborés pour laisser tomber accidentellement le trou noir de Kiev de 08 au centre de l'ancienne Terre avant que la propulsion Hawking permette un exode général. D'autres éléments du centre retardèrent l'exécution de ces plans jusqu'à ce que des moyens de fuir soient fournis à la race humaine. Finalement, aucune faction extrême ne triompha. L'ancienne Terre ne fut pas détruite. Elle fut enlevée par des moyens que notre technocentre n'arrive toujours pas à appréhender, par une ou plusieurs de ces intelligences suprêmes étrangères. Les PDG se mirent à babiller entre eux. Le cardinal Mustapha se laissa tomber à genoux sur son coussin et commença à prier. Le cardinal Dunoyer parut prise d'un tel malaise que son assistant, le Monsignor, lui chuchota des supplications angoissées. Même Monsignor Luca Oddi sembla sur le point de s'évanouir. Sa Sainteté, le pape Urbain XVI, leva 3 doigts. Le silence régna de nouveau. « Ce ne sont bien sûr que des éléments de base, » poursuivit le conseiller Albedo. « Ce que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui, ce sont les raisons pressantes d'une action commune. Il y a 3 siècles, des factions extrêmes du centre, une société d'intelligence autonome ravagée et déchirée par 8 siècles de débats violents et de conflits, tentèrent une nouvelle tactique. Elles conçurent la créature hybride connue sous le nom de John Keats, personnalité humaine enchâssée dans une persona d'IA portée par un corps humain relié au centre par une interface de l'espace de Planck. La persona de Keats remplissait plusieurs buts. C'était une sorte de piège pour ce que les IA considéraient comme l'élément empathique d'une IU de l'espèce humaine en train d'émerger. Une cause première qui mit en branle les événements aboutissant au dernier pèlerinage d'Hyperion, et un catalyseur de la chute des Distrans. Pour servir ce but final, des éléments du centre auxquels je dois ma création et qui ont mon allégeance informèrent Meina Gladstone que d'autres éléments du centre utilisaient les Distrans pour s'attaquer aux neurones humains, tels des vampires neuraux. Ces éléments du centre lancèrent, sous l'apparence d'une attaque extro, un assaut physique final contre le Retz. Désespérant de pouvoir éliminer d'un seul coup la race humaine éparpillée, ils voulaient détruire cette société avancée. S'attaquant directement au centre par la destruction du milieu Distrans, Gladstone et les autres dirigeants de l'hégémonie mirent fin aux expériences de réseau neural. C'est ainsi que Volage et Ultimiste connurent de grands revers dans la guerre civile du centre. Nos éléments du centre, ceux qui se consacrèrent non seulement à la préservation de la race humaine, mais à l'établissement d'une espèce d'alliance avec votre espèce, détruisirent une reproduction du cybride de John Keats, mais un second fut créé qui accomplit sa mission initiale. Et cette mission était se reproduire avec une femelle humaine particulière et créer un messie qui serait relié à la fois au centre et à l'humanité. Ce messie vit maintenant sous les espèces d'une enfant appelée aînée. Née sur Hyperion il y a plus de 3 siècles, cette petite fille est venue par les tombeaux du temps jusqu'à notre époque. Elle n'a pas fait cela par peur, nous n'avions pas l'intention de lui faire du mal, mais parce que sa mission est de détruire l'Église, de détruire la civilisation de la Pax et de mettre fin à la race humaine telle que nous la connaissons. Nous croyons qu'elle n'est pas consciente de son véritable but ou de sa vraie fonction. Il y a 3 siècles, mes éléments du centre, un groupe que vous pourriez qualifier d'humaniste, prirent contact avec les survivants humains de la chute des Distrans et du chaos qui s'ensuivit. Albedo adressa un signe de tête à sa sainteté. Le pape baissa la sienne pour acquiescer. Le père Lennart Hoyt survécut au dernier pèlerinage Gritschteck, poursuivit le conseiller Albedo en se remettant à marcher de long en large devant l'autel. Les flammes des bougies vacillaient légèrement sur son passage. Il avait vu de ses yeux les manipulations des éléments du centre partisans de l'intelligence ultime et les déprédations du monstre qu'ils avaient envoyé en arrière dans le temps. Le Gritsch. Quand nous avons pris contact, nous, c'est-à-dire les humanistes, le père Hoyt et quelques autres membres d'une église mourante, nous étions décidés à protéger la race humaine de ces assauts ultérieurs tout en restaurant la civilisation. Le cruciforme fut notre instrument de salut, au sens propre du terme. Vous savez tous que le cruciforme avait été un échec. Avant la chute, les humains ressuscités par l'action de ce symbiote étaient handicapés mentaux et sexuellement neutres. Le cruciforme, sorte d'ordinateur organique dans lequel sont stockées les données physiologiques et neurologiques d'un être humain vivant, régénérait le corps, mais pas la totalité de l'intellect ou de la personnalité. Il ressuscitait le cadavre, mais volait l'âme. Les origines du cruciforme sont enveloppées de mystères, mais nous, les éléments humanistes du centre, croyons qu'il a été élaboré dans notre avenir et ramené en arrière dans le temps par l'intermédiaire des tombeaux du temps d'Hyperion. En un sens, il a été envoyé pour que le jeune père Lennart Hoyt le découvre. L'échec du symbiote était dû aux simples nécessités du stockage et de la récupération de l'information. Dans un esprit humain, il y a des neurones. Le corps humain contient, approximativement, 10^28 atomes. Le cruciforme, afin de régénérer l'esprit et le corps d'un être humain, doit non seulement suivre la trace de ses atomes et de ses neurones, mais se remémorer la configuration précise du front d'onde holistique permanent qui renferme la mémoire et la personnalité humaine. Il doit aussi fournir l'énergie nécessaire pour restructurer les atomes, les molécules, les cellules, les os, les muscles et les souvenirs, afin que l'organisme renaisse semblable à l'individu qui vivait auparavant dans cette coquille. Le cruciforme ne peut pas réussir cela seul. Au mieux, la biomachine peut reproduire une copie grossière de l'original. Mais le centre avait la capacité informatique d'emmagasiner, de récupérer, de refaçonner et reformer ces informations en un être humain régénéré. Et nous avons fait cela pendant 3 siècles. À ce moment, Kenzo Isozaki vit les cardinaux Dunoyer et Mustapha, le père Farrell et le monsignor assistant de la première, échanger des regards empreints de panique. C'était de l'hérésie. C'était un blasphème. C'était la fin du sacrement de résurrection et le commencement d'un règne, une fois de plus, physique et mécanique. Isozaki se sentit pris de nausée. Il jeta un coup d'œil sur Aimodino et Pelliconiani et s'aperçut que les deux PDG priaient. Aaron semblait en état de choc.
« Mais bien-aimé, dit sa sainteté, n'ayez pas de doute, ne renoncez pas à la foi. Vos pensées actuelles sont une trahison de notre Seigneur Jésus-Christ et de son Église. Ce n'est pas parce que ses amis, autrefois connus sous le nom de technocentre, nous aident à réaliser cette résurrection qu'elle n'est pas un miracle. C'est Jésus-Christ Tout-Puissant qui a amené ces autres enfants de Dieu, que notre Seigneur a créés par l'entremise de ses instruments les plus indignes, la race humaine, à découvrir leur propre âme et leur propre salut. Poursuivez, H. Albedo.
Les expressions choquées de l'assistance parurent amuser légèrement Albedo. Mais ses traits lisses n'exprimaient qu'une paisible amabilité lorsqu'il se remit à parler. « Nous avons donné l'immortalité à la race humaine. En échange, nous n'avons demandé qu'une alliance secrète avec elle. Nous voulons seulement vivre en paix avec nos créateurs. Depuis 3 siècles, notre alliance discrète a bénéficié à la fois aux IA et à l'humanité. Comme l'a dit sa sainteté, nous avons découvert nos âmes. L'humanité a trouvé une paix et une stabilité absentes de son histoire pendant des millénaires. Peut-être depuis toujours. Et je le reconnais, l'alliance a été bonne pour mes propres éléments du centre, le groupe connu sous le nom d'humaniste. Partie d'une des factions les plus petites et les plus méprisées, nous sommes devenus non un parti dirigeant car aucun élément ne gouverne le centre, mais l'élément majeur du consensus. Notre philosophie est acceptée par la plupart des anciens groupes en conflit, mais pas par tous. En disant cela, le conseiller Albedo cessa de marcher et se posta devant l'autel. Il contempla visage après visage, et ses yeux gris étaient sévères. L'élément du centre composé de certains ex-ultimistes et d'évolutionnistes pro-nanotech qui avaient espéré se débarrasser de l'humanité a joué son atout avec l'enfant appelé aîné. Et elle est, au sens propre du terme, un virus largué dans le corps de l'humanité.
Le cardinal Lourdussamy s'avança. Le visage de cet homme énorme était empourpré et grave. Ses petits yeux étincelaient. Sa voix fut cinglante.
« Dites-nous, conseiller Albedo, quel est le but de cet aîné ?»«
Il est triple, » répondit l'homme en gris.
« Quel est le premier ?»«
Détruire les chances d'immortalité physique de l'humanité. »
« Comment une enfant pourrait-elle faire cela ?»«
Ce n'est pas une enfant, pas même un être humain. C'est la progéniture d'un cybride adapté. La persona de son père cybride s'est interfacée avec elle quand Aîné était dans la matrice de sa mère. Des éléments renégats du centre se sont intégrés à son esprit et à son corps avant sa naissance. »
« Mais comment pourrait-elle voler le don d'immortalité à l'humanité ?»
insista Lourdussamy.
« Par son sang, elle peut propager un virus qui détruit le cruciforme. »«
Un vrai virus ?»
« Oui, mais pas un virus naturel. Il a été façonné par les éléments renégats du centre. C'est une sorte de peste nanotech. »
« Mais il y a des centaines de milliards de chrétiens régénérés dans la Pax, »
dit Lourdussamy du ton d'un avocat qui guide son témoin.
« Comment une enfant pourrait-elle constituer une menace pour tant d'êtres ? Est-ce que le virus se propage de victime en victime ?»
Albedo soupira.
« Autant que nous pouvons le dire... » Le virus devient contagieux une fois que le cruciforme est mort. Ceux qui se sont privés de la résurrection par leur contact avec Aîné transmettront le virus à d'autres. Même ceux qui n'ont jamais porté un cruciforme peuvent devenir vecteurs de ce virus.
Y a-t-il une cure quelconque, une immunisation possible ?
Sans qui Lourdussamy ?
Aucune. Les humanistes tentent depuis 3 siècles de créer des mesures défensives. Mais comme le virus d'Aîné est une sorte de nanotech autonome, il élabore son propre vecteur de mutation optimale. Nos défenses sont incapables de le rattraper. Peut-être qu'en propageant nos propres légions de colonies nanotech dans l'humanité, nous pourrions un jour rattraper le virus et le vaincre. Mais nous, les humanistes, avons la nanotechnologie en horreur. Et le plus triste, c'est que toute vie nanotech échappe à notre contrôle. Au contrôle de n'importe qui. L'essence de l'évolution de la vie nanotech, c'est d'être autonome, doué d'une volonté inébranlable et d'objectifs qui n'ont rien à voir avec ceux de la forme de vie qu'il abrite.
Vous voulez dire l'humanité ?
Précisément.
Le premier but d'Aîné, ou pour être plus précis, le premier objectif de ses créateurs, les éléments renégats du centre, est de détruire tous les cruciformes et ainsi d'anéantir la résurrection humaine ?
Oui.
Vous avez mentionné 3 buts. Quels sont les 2 autres ?
Le deuxième est de détruire l'Église et la Pax, c'est-à-dire la civilisation humaine actuelle. Si le virus d'Aîné se propage, si la résurrection est déniée, comme les distances ne fonctionnent toujours pas et qu'une propulsion Gédéon est impraticable pour des êtres humains doués d'une seule durée de vie, ce deuxième but sera accompli. L'humanité retournera au tribalisme balkanisé qui suivit la chute.
Et le troisième ?
Le but final est, en fait, le véritable objectif de cet élément du centre, la destruction de l'espèce humaine.
Ce fut Anna Pelliconiani qui cria.
C'est impossible. Même la destruction, l'enlèvement de l'ancienne terre ou la chute des distances n'a pas anéanti l'humanité. Notre espèce est trop étendue pour une telle destruction. Beaucoup trop de monde. Beaucoup trop de cultures.
Albedo hocha la tête, mais tristement.
C'était vrai. C'était. Mais la peste des nés s'étendra quasiment partout.
Le virus tueur de cruciformes mutera en forme nouvelle. L'ADN humain sera contaminé dans tout l'univers. Avec la chute de la Pax, les extros vous envahiront de nouveau, cette fois avec succès. Ils ont depuis longtemps succombé à la mutation nanotech. Ils ne sont plus humains. L'humanité n'étant plus protégée ni par l'Église, ni par la Pax, ni par la flotte, les extros chercheront ces poches d'ADN et les infecteront de la peste nanotech. L'espèce humaine, telle que nous l'avons connue, celle que l'Église a cherché à protéger, cessera d'exister en quelques années standard.
Qu'est-ce qui lui succédera ?
Demanda le cardinal Lourdussamy dans un grognement bas. Personne ne le sait. Pas même Aîné ou les extros ou les éléments renégats du centre qui ont propagé cette peste finale. Les colonies de formes de vie nanotech évolueront selon leur propre programme, façonnant l'espèce humaine au gré de leurs propres caprices. Et ils seront les seuls à contrôler leur destinée. Mais ce destin ne sera plus humain.
Mon Dieu ! Mon Dieu !
Dit Kenzo Isozaki, ébahi de s'entendre parler tout haut.
Que pouvons-nous faire ? Que puis-je faire ?
Chose stupéfiante, ce fut sa sainteté qui répondit.
Cela fait 3 siècles que nous craignons et combattons ce fléau menaçant,
dit sa sainteté d'une voix douce, et ses yeux tristes étaient pleins d'une douleur qui dépassait la sienne.
Nous nous sommes efforcés de capturer l'enfant aîné avant qu'elle puisse propager l'infection. Nous savions qu'elle avait fui son époque pour la nôtre, non par peur, nous ne lui souhaitions aucun mal, mais afin de pouvoir propager le virus dans toute la Pax.
En fait, rectifia sa sainteté,
nous avons dans l'idée qu'Aîné ne sait pas vraiment l'effet que sa contagion aura sur l'humanité. Autrement dit, elle est le pion inconscient de ces éléments renégats du centre.
Aïmodino prit soudain la parole avec véhémence.
Nous aurions dû réduire Hyperion en cendres avec une bombe à plasma le jour où elle devait sortir des tombeaux du temps. Stériliser toute la planète, ne prendre aucun risque.
Sa sainteté ne se vexa pas de cette interruption impardonnable.
Oui, notre fils, certains nous y exhortèrent. Mais l'Église ne pouvait pas plus causer la perte d'un si grand nombre de vies innocentes qu'autoriser la mort de la petite fille. Nous nous sommes entretenus avec les éléments prophétiques du centre. Il disait qu'un jésuite, le père capitaine de Soya, contribuerait à sa capture. Mais aucune de nos paisibles tentatives pour nous emparer de l'enfant n'a réussi. La flotte de la Pax aurait pu vaporiser son vaisseau il y a 4 ans. Mais l'ordre avait été donné de ne pas le faire, sauf si tout le reste échouait. Alors nous continuons à lutter pour réfréner son invasion virale. Ce que vous devez faire, H. Isozaki, ce que vous devez tous faire, c'est continuer à soutenir les efforts de l'Église, même si nous intensifions ceux-ci. H. Albedo ?
L'homme gris reprit la parole.
Imaginez le fléau à venir comme un feu de forêt sur un monde riche en oxygène. Il consumera tout si nous n'arrivons pas à le maîtriser et à l'éteindre.
Notre premier effort doit consister à ôter le bois mort et les broussailles, les éléments inflammables, qui ne sont pas nécessaires à la forêt.
« Les non-chrétiens !»
chuchota Pelliconiani.
« Précisément !»
acquiesça Albedo.
« C'est pour cela qu'ils ont été éliminés, »
dit le grand inquisiteur.
« Ces milliers d'êtres à bord du Saïgon Marou, tous ces millions, tous ces milliards !»
Le pape Urbain XVI leva la main pour ordonner le silence et non pour bénir.
« Pas éliminés !» dit-il sévèrement. « Pas une seule vie, chrétienne ou non chrétienne, n'a été prise !»
Les dignitaires se regardèrent perplexes.
« C'est vrai, » reconnut le conseiller Albedo. « Mais ils étaient sans vie ?»
commença le grand inquisiteur, puis il s'interrompit.
« Je vous prie de m'excuser, Saint-Père, » dit-il.
Sa sainteté hocha sa tête mitrée.
« Vous n'avez pas besoin de vous excuser, John Domenico. Ce sont des sujets qui éveillent nos émotions. »
« Continuez vos explications, je vous prie, à Chalbedo. »«
Oui, votre sainteté, »
répondit l'homme en gris.
« Ceux que vous avez trouvés à bord du Saïgon Marou étaient sans vie, votre excellence, mais pas morts. Le centre, les humanistes du centre, ont mis au point un moyen de garder les êtres humains en stase temporaire, ni vivants, ni morts.
Comme la fugue cryotechnique ?
Demanda Aaron qui avait beaucoup voyagé en propulsion Hawking avant sa conversion. Albedo fit non de la tête.
C'est infiniment plus sophistiqué et moins dangereux.
Il fit un geste de sa main bien manucurée.
Pendant ces 7 dernières années, nous avons traité 7 milliards d'êtres humains. Dans la prochaine décennie, ou plus rapidement, nous devons en traiter 42 milliards de plus. Il y a beaucoup de monde dans les confins, et encore plus dans l'espace de la Pax, dont la population est en majorité non chrétienne.
Traité ?
Dit Pelliconiani. Albedo sourit d'une manière sinistre.
La flotte de la Pax déclare qu'une planète est en quarantaine, sans connaître la véritable raison de cette décision. Des vaisseaux robots du centre se mettent en orbite et balaient les régions habitées avec notre équipement générateur de stase. Corunum fournit les vaisseaux, les fonds et la formation. L'Opus Dei se sert de cargo pour enlever les corps en état de stase. Pourquoi les enlever ?
Demande le grand inquisiteur.
Pourquoi ne pas les laisser sur leur monde ?
Sa sainteté répondit,
« Il faut les cacher dans un endroit où la peste des nés ne pourra pas les trouver, John Domenico. Il faut les mettre à l'abri avec soin, avec amour, jusqu'à ce que le danger soit passé. »
Le grand inquisiteur hocha la tête pour montrer qu'il avait compris et acquiesçait.
« Il y a autre chose, »
poursuivit le conseiller Albedo.
« Mes éléments du centre ont créé des... une race de soldats, dont le seul but est de trouver et de capturer cette aînée avant qu'elle puisse propager cette contamination mortelle. Le premier fut activé il y a 4 ans et s'appelle Radamante Nemes. » Il n'existe que peu de ces pisteurs-chasseurs, mais ils sont équipés pour venir à bout de tous les obstacles que les mauvais éléments du centre leur opposent. Même le Gritch.
Le Gritch est contrôlé par les ultimistes et d'autres éléments renégats du centre ?
Demanda le père Farrell. C'était la première fois que cet homme prenait la parole.
« Nous le pensons, »
répondit le cardinal Lourdussamy.
Ce démon semble être de connivence avec Aîné. Il l'aide à propager le virus. De même, les ultimistes ont apparemment trouvé le moyen de lui ouvrir certains portails distance. Le diable a trouvé un nom et des alliés dans notre ère. J'en ai bien peur.
Albedo leva un doigt. Je dois souligner que Némès et nos pisteurs-chasseurs sont dangereux, comme toute machine aussi terriblement résolue. Une fois l'enfant capturé, nous éliminerons ces hybrides. Seul l'horrible danger que pose le fléau des nés justifie leur existence. Saint-Père, dit Kenzo Isozaki, les mains jointes, que pouvons-nous faire d'autre? Priez, dit sa sainteté. Ses yeux noirs étaient des puits de douleur et de responsabilité. Priez et aidez notre sainte mère l'Église dans ses efforts pour sauver l'humanité.
La croisade contre les extros continuera, dit le cardinal Lourdussami. Nous les tiendrons en échec aussi longtemps que nous le pourrons.
Pour cela, dit le conseiller Albedo, le centre a élaboré la propulsion Gédéon et travaille à de nouvelles technologies afin que l'humanité puisse se défendre.
Nous continuons à chercher la petite fille, ou plutôt la jeune femme, je crois, ajouta Lourdussami. Et si elle est appréhendée, elle sera mise en quarantaine.
Et si elle ne l'est pas, Votre Excellence ? Demanda le grand inquisiteur. Lourdussami ne répondit pas. Nous devons prier, dit sa sainteté. En ces temps de danger maximum, il faut demander l'aide du Christ pour notre Église et la race humaine. Nous devons faire tout ce que nous pouvons, puis exiger encore plus de nous-mêmes, et prier pour les âmes de nos frères et sœurs dans le Christ. Et surtout, pour l'âme d'aîné qui mène involontairement son espèce vers un tel péril.
Amen,
conclut Monseigneur Luca Oddi. Puis, pendant que tous ceux présents dans la petite chapelle s'agenouillaient et inclinaient la tête, sa sainteté le pape Urbain XVI se leva, s'avança vers l'autel et commença à célébrer une messe d'action de grâce.